Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que Clément me connaisse.
Je plaisante. Quand Clément il m'a envoyé ce texto pour demander si je voulais être prêché, j'ai hésité parce que c'est un thème. Il m'a donné 30 à 40 minutes, alors qu'il m'aurait fallu bien plus pour aborder ce passage parce que c'est compliqué à aborder. C'est compliqué dans bien de manières, mais voilà, c'est toujours un privilège et c'est toujours une bénédiction que de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Si vous ne me connaissez pas, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, parce que j'ai prié ce matin, j'ai prié cet après-midi avant de venir, que ces quelques versets puissent vous parler d'une manière que ça puisse changer. Peut-être pas changer les choses dans votre vie, mais que ça puisse vous encourager, vous régénérer, vous renouveler. Donc voilà, on vit en France. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, écrite en 1789, c'est le texte fondateur de la République française. On est d'accord? Vous avez appris ça à l'école quand vous étiez plus petit. Et en fait, la DDHC pose les principes fondateurs, les principes moraux de la République française, et qui énonce donc les droits et les devoirs des citoyens français. Deutéronome 5 et 6, c'est exactement la même chose, pratiquement la même chose, dans la culture, dans la religion et dans la société juive. Évidemment, Deutéronome 5, c'est un rappel des 10 commandements qu'on connaît tous, si on a grandi dans une société judéo-chrétienne. Et Deutéronome 6 contient la prière la plus importante de la religion judaïque. Et c'est pour ça, pour moi, c'était une évidence que de m'appuyer sur ces deux textes pour aborder ce thème de la famille. La famille, c'est le socle humain. La famille, c'est la base sociale. La famille, c'est la fondation morale de tout être humain. Et donc, on va faire très simple. Première partie, on va voir la famille terrestre avec Deutéronome 5, et ensuite famille spirituelle, la famille céleste, la famille spirituelle dans Deutéronome 6. Relisez avec moi Deutéronome 1, verset 5, versets 1, 6 et 16. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit : Écoute, Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les. Mettez-les soigneusement en pratique. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et donc, il donne ce commandement suivant. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, vous avez déjà entendu ces versets de nombreuses fois si vous avez grandi à l'église, si vous êtes allé régulièrement à l'école du dimanche. Et vous pensez savoir ce que ces commandements signifient. Mais il y a un sens qui est profondément différent pour les gens de l'époque, pour les Israélites. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, si vous enfreignez le commandement d'honorer ses parents, son père et sa mère, et bien, vous aviez le droit d'être lapidé. Vous le saviez ça ou pas? Parce que c'était une société qui était basée sur l'honneur et la honte. Ne serait-ce qu'en parlant mal à ses parents, on pouvait être lapidé. C'était comme ça. Ça semble extrême, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, les gens prenaient ce commandement très au sérieux. Mais derrière ça, je pense qu'il y a un principe beaucoup plus profond que mourir si on parlait mal à ses parents. Et donc, je pense que les gens de l'époque avaient vraiment saisi la gravité de ce commandement. Nous, on se dit, bon, il faut honorer ses parents. On dit que oui, c'est important de le faire, mais que ce n'est pas plus important que les 9 autres commandements. Mais les gens d'avant, eux, avaient vraiment saisi le sens grave, avaient saisi la portée, l'importance que d'honorer ses parents. Donc est-ce que aujourd'hui il faut adopter la même posture que les Israélites? Vous dites sûrement que pour eux, c'était peut-être plus facile parce que justement, c'était une société basée sur l'honneur et la honte, et que ça faisait partie de leur culture. Alors que nous, aujourd'hui, voilà, on vit dans une société où l'enfant est roi. Mais sachez que ce commandement, qu'on vient de lire, était extrêmement révolutionnaire aussi à l'époque pour eux. Laissez-moi vous rappeler qu'à l'époque, ils vivaient dans une société qui était patriarcale. Et que nous, on vit dans une société qui prône l'égalité hommes et femmes, on est d'accord. Et donc, pour eux, pour les Israélites, pour les Juifs, c'était bizarre d'honorer sa mère. C'était bizarre. On est tous l'enfant de quelqu'un. On a tous un père. On a tous une mère. Ce qui diffère, par contre, c'est qu'on a tous un rapport différent avec nos parents. Notre relation avec nos parents peut être incroyable, remplie d'amour, ou il peut être malsain, tendu, difficile avec nos parents, ou la relation est tout simplement inexistante pour une raison diverse. Alors cet après-midi, j'aimerais vous demander, mais comment est-ce que elle est ta relation avec ton père, avec ta mère? Et seul, vous-même, vous connaissez la réponse. Vous savez comment ça se passe entre vous et vos parents. Il y a des gens qui pensent que, parfois moi ça m'arrive, parfois je pense que mes parents sont totalement dépassés, qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Pour une raison ou pour une autre, ou pour d'autres personnes, la vie de leurs parents c'est crucial, c'est plus qu'important pour prendre une décision personnelle, et c'est parce qu'ils les admirent tellement que leur avis compte énormément. Alors, c'est quoi que d'honorer ses parents? Ça veut dire quoi honorer ses parents? Ça veut dire beaucoup de choses, mais pour moi, honorer ses parents c'est un choix morale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Honorer ses parents, c'est de décider, c'est de choisir de traiter ses parents avec dignité, avec crainte, avec respect, toute leur vie et pour leur intérêt, pas pour notre propre intérêt. Beaucoup de personnes pensent que honorer ses parents, c'est tout simplement obéir à ses parents. L'obéissance, c'est juste un des moyens d'honorer ses parents. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on honore ses parents lorsqu'on obéit à ses parents. Alors, qu'est-ce que ce commandement requiert? Ce commandement ne dit pas qu'il faut forcément agir comme ses parents ou qu'il faut leur faire aveuglément confiance ou qu'il faut les admirer aveuglément. Parce que dans certaines situations, il nous est impossible d'agir comme nos parents parce que lorsqu'ils agissent, ça ne plaît pas à Dieu. Ou ce serait également bête de faire aveuglément confiance à leurs parents parce qu'ils pourraient être indignes de confiance. Ou ce serait bizarre de les admirer s'ils manquent d'exemplarité dans leur comportement ou de leur façon de penser. Notre relation avec nos parents change et elle évolue. Elle est différente quand on a 5 ans ou 55 ans. Il y a une période dans laquelle où on est sous l'autorité de nos parents, donc oui, il faut les obéir. Et il y a une autre période dans notre vie où on quitte la maison, parfois on se marie, parfois on fait ses propres enfants, et donc on n'a pas forcément à suivre leurs instructions ou leurs recommandations. Par contre, la chose que la parole nous dit, et les écritures sont claires par rapport à ça, c'est qu'on doit honorer nos parents. Peu importe qui tu es, peu importe qui sont tes parents, on se doit d'honorer ses parents, peu importe comment ils nous ont traités ou éduqués. Pourquoi est-ce que c'est important que d'honorer ses parents? Lisez avec moi le verset 6. Honore ton père et ta mère. Verset 16, pardon. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, est-ce que ça veut dire que si on honore nos parents, on devient centenaire? Et que si on ne le fait pas, on n'est pas centenaire? Je crois pas, non. En fait, ça veut plutôt dire que la manière dont on interagit avec ses parents a une conséquence sur la qualité de notre vie et sur la conséquence, sur la nature, enfin, ça définit la nature des autres relations que l'on aura avec les autres plus tard dans la vie. On vit dans une société où on n'a jamais autant mis l'accent sur la compréhension des relations avec nos parents pour se connaître soi-même. Il y a beaucoup de psychologues ou de psychothérapeutes qui disent que c'est important d'étudier l'arrière-plan familial pour savoir qui on est, pour voir comment on a été affecté dans nos relations quand on était enfant avec nos parents, pour comprendre, ouais, pour s'épanouir dans la vie. Et pourquoi on est aujourd'hui qui on est. Beaucoup de personnes font ça. Et en fait, l'environnement familial, c'est crucial. C'est important dans la définition et dans le développement d'une personne. Et les parents sont les premières personnes qui posent les fondations dans la vie d'un être humain. Les parents sont les personnes qui nous ont conçus, qui nous ont accueillis, qui nous ont hébergés, qui nous ont nourris, qui nous ont protégés, qui ont pourvu à tous nos besoins, qui nous ont éduqués. Ils ont toujours été là tout au long de notre vie. Et la manière dont on leur parle et dont on les traite aura une conséquence sur la manière dont on parlera et on traitera les autres. C'est à la maison qu'on acquiert ces valeurs. C'est dans le foyer qu'on devient une personne. Et donc, c'est une relation qui est fondamentale, qui modèle le reste de nos relations dans la société. Et les parents sont également la première figure d'autorité auquel on est confronté et que Dieu a mis exprès sur notre chemin pour nous enseigner, pour nous éduquer. Et donc, pareil, cela a une répercussion sur la manière dont on interagit avec les autres autorités tout au long de nos vies, que ce soit nos profs, que ce soit nos chefs au travail, que ce soit les institutions gouvernementales, ou même Dieu. Et nos parents, autant imparfaits qu'ils soient, ils sont une certaine réflexion autoritaire de qui Dieu est. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'ère moderne marque l'époque de l'enfant roi, où l'on excuse l'enfant, où l'on trouve que c'est normal qu'un adolescent fasse une crise, et donc on attend que l'adolescent fasse sa crise. Écoutez ce que Philippe Mérieux, qui est chercheur spécialiste dans l'éducation et les pédagogies, dit. Nous vivons pour la première fois dans une société où l'immense majorité des enfants qui viennent au monde sont des enfants désirés. Cela entraîne un renversement radical. Jadis, la famille faisait des enfants. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui fait la famille. En venant combler notre désir, l'enfant a changé de statut et est devenu notre maître. Nous ne pouvons rien lui refuser au risque de devenir de mauvais parents. Beaucoup d'enfants pensent qu'on leur doit des choses. Peut-être que ça vous est arrivé lorsque vous étiez plus jeune et plus immature. Et donc, au lieu d'honorer nos parents, on honore les enfants. Et ça a des conséquences qui sont tragiques sur la société et sur la famille. Alors, que faire ? Que faire ? Je vais vous donner des pistes concrètes et pratiques pour répondre à cette question de comment honorer ses parents. Mais avant de vous dire ces quelques exemples, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'honorer ses parents. Honorer ses parents, c'est quelque chose de très personnel. Ça dépend du contexte familiale. Ça dépend de la personnalité de vos parents. Ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de l'interaction, de la relation que vous avez avec eux. Et donc, faut connaître, se connaître soi-même, faut connaître ses parents pour savoir comment les honorer, puis le montrer. Par exemple, pour moi, parce que je ne peux pas parler pour vous, mon père, c'était un, enfin, oui, c'est un chef cuisinier à la retraite. Cuisiner pour lui, c'était une grande passion, enfin, c'est une grande passion, pardon. Et tout au long de sa vie, il a fait que de bosser, travailler, voilà. Et pour lui, le plus important, c'était de pourvoir à sa famille, pourvoir à nos besoins. Et en fait, l'un des moyens le plus simple et le plus facile d'honorer mon père, en fait, c'est quand je rentre chez lui, c'est de manger plus que je ne mange d'habitude pour lui montrer que ce qu'il fait, c'est bon. Ça paraît bête, mais ça lui fait plaisir quand il voit que tous les plats sont finis à table. L'année dernière, ma mère, elle m'a choqué. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit qu'elle était contente que Donald Trump fût élu président des États-Unis. Parce qu'il s'était dit chrétien. Et moi, ça m'avait profondément choqué. Et malgré toute l'admiration que j'éprouve pour ma mère, je ne l'ai pas compris, je ne la comprends toujours pas. Mais l'honorer dans ce cas, c'est pas d'être condescendant et lui dire mais t'es complètement à la plaque parce que ce que dit Trump c'est n'importe quoi ou parce qu'elle est moins éduquée que moi ou que j'en sais plus qu'elle. Mais l'honorer c'est se mettre à sa place, c'est lui expliquer respectueusement en quoi Trump n'est pas un bon témoignage de Dieu. L'une des manières les plus concrètes d'honorer ses parents, c'est quoi? C'est de les aider financièrement. Ça paraît bête, mais c'est très concret. L'argent, surtout chez les parents, ça fait plaisir. Rendez-vous compte, hein, qu'ils ont tout payé pour vous depuis la naissance jusqu'à, je sais pas, pour, allez, on va dire jusqu'à 18 ans. Pour d'autres, jusqu'à, je sais pas, 25, 30 ans parfois. Vous imaginez, ils ont tout payé. Alors oui, un jour, vos parents vieilliront. Un jour, vos parents auront des besoins. Et je pense que c'est important, surtout pour nous, Asiates, désolé pour ceux qui ne sont pas Asiates, que c'est important de prendre soin financièrement de ses parents. Ça fait partie de notre culture. Et si ça fait pas partie de votre culture, ben c'est quelque chose de très biblique. C'est écrit dans Jacques, je crois, de prendre soin de ses parents, des veuves en particulier, lorsqu'elles sont dans le besoin. Enfin, une dernière piste d'application concrète pour les honorer, et c'est sûrement la chose la plus difficile à faire en tant qu'enfant, mais le plus beau moyen d'honorer ses parents, c'est de les pardonner. C'est de les pardonner. Sachant qu'ils sont, j'espère, humains, je suis 100% sûr qu'ils ont commis des fautes dans leur vie avec votre éducation, avec votre enseignement. Et parfois, ils sont pas forcément chrétiens, vos parents. Mais la meilleure façon d'honorer son père et sa mère, c'est de le ou la pardonner, lui pardonner, pardon. Et pour certains d'entre vous, c'est extrêmement douloureux de le faire, que de pardonner ses parents. Ça fait très mal. Parce qu'ils nous ont fait du mal. Un moment ou un autre dans notre vie. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ce qui a rendu compliqué la tâche d'honorer mes parents, c'était pas le fait de devoir manger plus de bons plats ou de dire que c'est pas pas bien de voter Trump. Ce qui était le plus compliqué pour moi d'honorer mes parents, c'est de les pardonner. De quelle manière? Parce que, comme je vous ai dit, mes parents, mon père, mes parents, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont été, ils ont fait que travailler tout au long de leur vie. Et ce qui veut dire qu'en grandissant, je ne les ai pas beaucoup vus. Pendant mon adolescence, pendant mon enfance, ils ont été très absents. Et donc, j'ai développé une sorte de ressentiment envers eux. Parce que moi, ce que je voulais, c'était simplement avoir une famille normale où, quand je rentrais à la maison, je pouvais faire les devoirs avec eux, manger avec eux le soir. Alors qu'au lieu de ça, ce que j'avais, c'était des dîners où j'étais avec mon frère ou ma sœur, qui était plus grand que moi, où parfois je me retrouvais tout seul à table. Mais ce commandement me rappelle que mes parents étaient des immigrés, qu'ils ont quitté leur pays. Pourquoi? Pour que je puisse avoir des opportunités, pour que je puisse avoir une meilleure éducation. Ils ont tout sacrifié pour mon frère, ma sœur et moi. Et donc, honorer mes parents dans ce cas-là, au-delà de les pardonner, c'est de me mettre à leur place. C'est de se dire pourquoi ils ont passé tant de temps au travail. Pourquoi ils n'ont pas été à la maison? C'est de me mettre, d'essayer d'être dans leur état d'esprit, de voir quelles étaient leurs motivations. Et ça m'a beaucoup aidé à les pardonner. Je ne vous connais pas tous ici dans cette salle. Je ne connais pas vos parents. Je ne connais pas la nature de leur relation que vous avez avec eux. Mais je suis sûr et certain qu'à un moment ou un autre dans votre vie, ils vous ont blessé. Ils vous ont causé des douleurs. Mais ce commandement nous ordonne de les pardonner. C'est le moyen le plus compliqué, mais c'est le plus beau moyen de nourrir ses parents. Vous aimez rétorquer, mais c'est facile pour moi de juste vous dire qu'il faut obéir à ces commandements, qu'il faut les pardonner à vos parents. Vous avez peut-être vécu, je ne sais pas moi, des expériences vraiment douloureuses, des expériences tragiques, des expériences horribles avec vos parents, je ne sais pas. Mais je connais une personne que si vous apprenez à la connaître, elle changera beaucoup de choses. Elle changera bien des perspectives que vous avez. Cette personne, vous la connaissez tous. Elle s'appelle Jésus. Et vous connaissez plus ou moins tous son histoire, ok, Jésus. Jésus, vous savez qu'il est venu sur Terre, il a vécu une vie parfaite, qu'il a été injustement maltraité, jusqu'au point de l'emmener sur la croix. Et vous savez, lorsqu'il était sur la croix, il était en train d'agoniser. Ça, vous savez ça. Il était en pleine douleur physique, mentale et aussi morale. Il a dit le mot suivant. Il a dit « Eli, Eli, lema sabachthani ?» Que dire « mon Dieu, pourquoi m'as Dieu abandonné ?» À la croix, Jésus, lui, s'est senti délaissé, abandonné par son Père. Et est-ce que vous pensez que Dieu, il n'a jamais entendu les cris de Jésus sur la croix? On peut se dire que non, parce qu'au bout du compte, Dieu n'a pas sauvé Jésus, qu'il l'a laissé cloué sur la croix. Mais si Dieu avait répondu favorablement ou positivement aux supplications de Jésus, on ne serait jamais là. Le salut ne serait jamais disponible à chacun d'entre nous. Mais ce qui est plus incroyable, c'est comment Dieu, le Père, a répondu de manière encore plus retentissante. Dieu, il n'a pas enlevé les clous de la croix de Jésus surnaturellement, mais il l'a ressuscité. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie, la résurrection? En ressuscitant Jésus, Dieu le Père a élevé, a glorifié son Fils. Et il lui a donné un signe de victoire ultime sur la mort, qui est plus fort que d'enlever des croix, des clous sur une croix. Parce qu'en plaçant notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, qui est le Fils bien-aimé du Père, vous savez ce qui se passe? Il y a une chose incroyable et inimaginable qui se passe. Lisez avec moi Jean, si vous avez une Bible avec moi. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire Jésus, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dieu offre un amour qui est inconditionnel. Il est prêt à dire à ses ennemis, parce que nous étions ennemis de Dieu avant de mettre notre confiance en Jésus, que les personnes qui mettent leur confiance en son Fils bien-aimé, il est en train de leur dire que je vous aime et je vous protégerai quoi qu'il arrive. Du moment que tu reconnais mon Fils comme étant ton Sauveur et ton Seigneur. La réalité, c'est que vos parents vous ont laissé tomber un moment ou un autre, ou vous laisseront tomber un moment ou un autre dans votre vie. Je vous le garantis. C'est ce qui se passera avec vos parents. Parce que ils sont humains. Et ça fait mal. Quand vos parents vous laissent tomber ou quand ils ne sont pas là pour vous. Mais Jésus nous appelle à faire partie de sa famille. Dieu, le Père, veut nous adopter. Lisez avec moi maintenant dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Éphésiens 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a choisis, en lui Jésus-Christ. En Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. L'une des images de la Bible qui présente la relation de Dieu avec son peuple, c'est celle d'un père avec ses enfants. Ça, vous le savez. C'est le thème d'aujourd'hui. Et en fait, dans cette analogie, il n'y a absolument rien qui nous choque. Parce qu'on est habitué, parce qu'on a entendu. Mais c'est l'une des choses la plus folle que la Bible affirme, de dire que Dieu est notre père et que nous sommes ses enfants. Dans aucune autre religion, dans aucune autre philosophie du monde, le créateur de l'univers, le créateur qui tient dans sa paume de la main l'univers, veuille prendre dans ses bras ses créatures. Dans aucune religion, dans aucune philosophie, on l'affirme, sauf dans le christianisme. Oui, Dieu peut être créateur, roi, juge. Dans d'autres religions, il y a ça. Mais Dieu le Père, seul dans la Bible, seul avec Jésus, c'est possible. Et c'est une révolution. Et j'espère que vous prenez conscience de cela. Vous savez, pour d'autres, par exemple pour les musulmans, c'est une aberration de dire que Dieu est notre Père. Par Jésus, à présent, nous formons une famille parce que Dieu nous a adoptés à travers l'œuvre de son Fils. Et donc aujourd'hui, si on a mis notre confiance et notre foi en Jésus, on devient automatiquement une famille spirituelle. Et c'est ce qui nous mène à notre deuxième partie. Donc, comme la famille terrestre, la famille spirituelle, on ne la choisit pas. Oui, d'accord, on ne la choisit pas. Bien sûr, on peut choisir d'église, on peut changer d'église si on n'aime pas un tel ou un tel. Mais bien sûr, comme dans la famille terrestre, on développe certaines affinités avec son frère ou sa sœur plus que d'autres. Mais la très grande différence se fait au niveau des parents. Nous, nos parents terrestres sont imparfaits. Alors que notre Père spirituel, notre Père céleste, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Et donc, j'aimerais vous rappeler certains points sur ce Père céleste, que je pense qui est crucial pour que nous puissions vraiment comprendre et mettre en pratique ce que c'est que d'être une famille spirituelle. Lisez avec moi Deutéronome 6, verset 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qu'on appelle dans la culture juive le schéma. Schéma Israël, Adonai, Eleinu, Adonai, Ached. C'est la prière la plus importante dans le judaïsme, qui fait office de confession de foi. Et donc, les Juifs récitent cette prière avant de dormir, pendant les grandes fêtes, pendant les grandes célébrations. Pour rappel, lorsque Deutéronome 6, 5 et 6 a été écrit, la pensée dominante de l'époque, c'était quoi? C'était le polythéisme. Okay? C'était le polythéisme, c'est-à-dire que les gens croyaient dans l'existence de plusieurs dieux. Et donc, cette déclaration, elle est subversive, pardon, à l'encontre de la pensée dominante. Et donc, à l'époque, c'était une déclaration qui était une fois de plus révolutionnaire pour les gens. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique, le seul Éternel. Dieu parle à son peuple élu et leur demande d'écouter. Pourquoi on appelle cette prière le schéma? Parce que, en fait, schéma, ça veut dire écoute en hébreu. Écoute. Écoute, Israël, le Dieu, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de tendance à se faire une certaine vision de qui Dieu est. Trop souvent, on se refait Dieu dans notre tête, à notre image. On le fait tous les jours, sciemment ou inconsciemment, mais c'est ce qu'on fait en tant qu'être humain. On se crée un Dieu qui s'accommode à nos ambitions, à nos désirs, à nos rêves, à nos objectifs. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du veau d'or dans Exode 32? Dans Exode 32, vous savez, il y a Moïse qui est sur la montagne, qui attend justement de recevoir les 10 commandements. Et donc, il y a le peuple qui est en train d'attendre en bas de la montagne et qui se montre être impatient. Et donc, le peuple, avec Aaron, le frère de Moïse, ils commencent à collecter de l'or. Et au bout d'un moment, donc, ils font un veau d'or. En fait, cet épisode montre combien il est facile d'adorer le vrai Dieu et de commencer d'adorer de faux dieux. Mais je pense que cette histoire démontre bien plus que cela. Israël ne commence pas à adorer un faux dieu païen, mais si on regarde plus attentivement l'histoire dans Exode 32, ils adorent Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui les a fait sortir d'Égypte, mais ils l'adorent comme si c'était un simple faux dieu païen. Et il y a une grosse différence. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire de Dieu quelqu'un qui soit à leur image. Ils l'ont catégorisé dans leur tête d'une certaine manière. C'est cette croyance qu'on a de Dieu qu'on veut contrôler, qu'on peut contrôler, et qui nous doit des choses parce qu'on a bien agi cette semaine, donc qui nous doit des choses. Parce qu'on est un bon chrétien, on est une bonne chrétienne. Et les enfants d'Israël ont pris ce Dieu vivant et l'ont rendu commode, ils l'ont rendu plus facilement contrôlable, une sorte de version domestiquée de Yahweh. Et c'est ce que je pense que beaucoup d'entre nous, on le fait, une fois plus sciemment ou inconsciemment, on le fait. Et c'est à ce cœur humain que l'Éternel, Yahweh, s'adresse. Lorsqu'il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul et l'unique Éternel. C'est à Dieu de se définir lui-même. C'est à Dieu de nous dire qui il est. Ce n'est pas à nous de dire comment Dieu est, comment il doit être, ce qu'il doit faire pour nous. C'est comme si, voilà, vous prenez votre meilleur ami, vous faisiez la même chose, ce serait totalement absurde. Vous n'allez pas dire, hey, Clément, tu dois aimer Justin Bieber, tu dois écouter, tu dois écouter telle musique, tu dois manger telle chose, tu dois être comme ci, comme ça. On ne ferait jamais ça avec une personne, on est d'accord ou pas? Parce que c'est un être humain, et qu'est-ce qu'on fait avec un être humain? On prend le temps d'écouter, on écoute son histoire, ce qu'il a à dire ou elle a à dire. On ferait jamais ça avec un ami. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On se fait une fausse idée de qui Dieu est. Et donc, c'est avec cet état d'esprit qu'on doit s'approcher de Dieu, où on est prêt à écouter Yahweh. Dieu est un Dieu vivant, l'Éternel qui règne dans les cieux. Il est l'unique et le seul et l'incontournable Dieu. J'aimerais juste vous rappeler que Yahweh, c'est notre Père Céleste. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous chérit. C'est en lui qu'on a notre identité. Cela étant dit, ayant dit ces choses-là, je pense que ça vous donne matière à réfléchir pour plus tard. Et j'ai envie de continuer le procédé et vous expliquer en quoi consiste la famille spirituelle. On va lire versets 6 et 9. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. C'est une instruction qui est à la fois simple et pratique, que je trouve absolument touchant. Laissez-moi souligner deux choses. Premièrement, l'aspect ordinaire de la chose. Au verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ce commandement, c'est une charge énorme. C'est une responsabilité qui est incroyable, qui est donnée à des gens ordinaires, non pas à une élite, mais à des parents ordinaires qui ont des enfants ordinaires. Cette instruction s'est donnée à une communauté de pères, de mères, d'oncles, de tantes, de cousins, de cousines, d'amis, de voisins. C'est au peuple que cette instruction a été donnée et pas à une élite. Et donc chaque croyant, chaque chrétien, chaque chrétienne a cette responsabilité de prendre soin de la santé et la croissance spirituelle de son frère, de sa sœur, de son voisin, de sa voisine. C'est donné à chacun d'entre nous. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, Dieu vous charge de prendre soin de votre frère et de votre sœur. Et même si on ne se sent pas adéquat ou compétent, parfois, Dieu nous invite à le faire. C'est un commandement. Deutéronome 6, un commandement. Et deuxième point que j'ai envie de soulever, c'est que cette instruction, entre guillemets, ordinaire, donnée à des gens ordinaires, nous est donnée pour que ce soit fait pendant des moments ordinaires de la vie. En étant chez soi, en étant en voyage, quand on marche dans la rue, quand on prend le métro, quand on se couche, quand on se lève, Dieu ordonne cette chose sacrée dans la banalité du quotidien. Dieu utilise les moments de la vie, des moments courants de la vie. Pour moi, ça se fait souvent autour d'un repas. Récemment, par exemple, j'ai un ami pasteur qui savait que j'allais pas très bien. Il est venu exprès sur le lieu de mon travail pour parler de ça. J'ai un autre ami, il a pris le temps un soir de manger avec moi, de m'inviter à manger parce qu'il savait que j'allais pas trop bien. On a pu partager des moments profonds entre frères. Dans un moment quotidien de la vie qui est banal. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, faire du shopping ensemble, faire du sport ensemble, où justement on peut appliquer cette instruction d'aimer son prochain, d'aimer Dieu. Et je suis sûr que c'est de cette manière que vous avez les meilleures conversations avec vos frères et vos sœurs. Quand vous étiez dans le train-train ordinaire de votre vie, parce que ça vous a édifié, parce que dans l'ordinaire, une personne a pris le temps de mettre du temps de côté pour être avec vous, pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur. Pour beaucoup, le discipulat, la croissance spirituelle, ça se passe dans les groupes de maison, dans les groupes de jeunes, en étant avec son mentor spirituel. Et c'est sûr que ces moments sont précieux et sont valables, enfin c'est important. Mais notre texte nous montre que le discipulat, ça se passe surtout dans le quotidien de la vie. Lorsqu'on est chez soi, lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on se couche, lorsqu'on se lève, c'est là qu'a lieu la croissance spirituelle, l'encouragement. Au quotidien, dans l'ordinaire, dans le banal. Et c'est comme ça qu'on devient une famille spirituelle. Et lorsqu'on apprend à prendre soin des uns des autres à travers des actions ordinaires d'amour, comme manger avec quelqu'un, comme faire du shopping, comme faire du sport, ou ne serait-ce qu'envoyer un texto à un ami, ça fait plaisir, non, quand on reçoit un texto d'une personne qui nous demande comment ça va aujourd'hui. Mais ce n'est pas juste ça qui me saute aux yeux dans ce passage. C'est surtout l'intentionnalité. Afin que ces moments ordinaires puissent devenir sacrés, ce qui est important, c'est de faire attention aux autres. C'est être vif d'esprit vis-à-vis des autres. Lorsqu'on lit « Tu attacheras tes mains comme un signe », les mains sont le symbole de notre vie active. C'est le symbole visible de qui on est, de nos actions, de notre comportement, de notre vie extérieure. Lorsque il dit « Ils seront comme une marque entre tes yeux », entre tes yeux, en d'autres termes, ça veut dire ce qu'il y a dans notre tête, dans notre esprit. C'est notre vie de réflexion. C'est nos pensées intérieures. C'est là aussi que doit régner l'amour de Dieu. Et lorsqu'il dit « Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison », c'est-à-dire c'est l'entrée du chez-vous, le lieu le plus intime pour une personne où se déroulent les choses les plus personnelles chez un être humain. Et c'est là aussi qu'on doit démontrer notre amour qu'on a les uns envers les autres. Puis quand on lit sur les portes de tes villes, ce sont les portes de la vie publique, civile, sociale et économique. Même là, l'amour de Dieu doit régner. C'est vraiment une question d'intention, une question de faire attention aux autres, de ce qui se passe autour de soi. Dieu se trouve partout dans notre espace quotidien, pas juste dans notre un à un avec Dieu, pas juste lorsqu'on va à l'église les dimanches, ni pendant les conférences ou pendant les camps d'été. C'est dans tous les recoins de notre vie, là où ça requiert notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force. C'est le sacré dans l'ordinaire. Et donc, si on commence à vivre comme ça, être intentionnel, à faire attention aux autres, c'est là qu'on devient une famille spirituelle. Si on aiguise notre conscience pour les autres, si on a cette intentionnalité de vouloir faire du bien aux autres, d'encourager mon frère, ma sœur, c'est là qu'on devient une famille spirituelle. Alors, laissez-moi vous poser cette question cet après-midi. C'est quand la dernière fois que vous avez intentionnellement encouragé un frère ou une sœur, où vous avez pris le temps de vouloir l'édifier, lui faire du bien? Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Laissez-moi vous dire une chose. L'Église a besoin de vous. La famille a besoin de vous. On peut être une source d'encouragement et d'édification. Parfois, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est le cas. Je vous le garantis, je vous l'assure. Sinon, vous ne feriez pas partie de cette famille. Parce que si on se doit de vivre cette vie terrestre en tant que famille spirituelle, c'est pas juste pour les pasteurs, les responsables. Est-ce que vous savez que beaucoup de pasteurs ou de responsables d'église, ils sont fatigués. Vous le savez ça ou pas? Il y en a plein qui sont découragés, qui se sentent desséchés. Et parfois, il y en a plein qui en ont marre du ministère. Alors, vous ne dites pas dans votre tête que c'est à eux de faire les efforts. C'est à vous d'encourager votre frère, d'encourager votre sœur. Ce n'est pas toujours au pasteur ou au responsable d'église. On a besoin de vous dans les petites choses de la vie quotidienne parce que Dieu nous demande d'être une communauté qui prend soin des uns et des autres pour témoigner de sa grandeur. C'est le sacré dans la banalité, pardon. N'oubliez juste pas d'où vous venez. N'oubliez juste pas comment vos parents vous ont éduqué. N'oubliez pas qui est l'Éternel, notre Dieu, l'unique, le seul. Éternel, comment lui nous a sauvés par sa grâce. C'est par sa générosité et par sa grâce que nous pouvons nous dire qu'on peut s'appeler frère et sœur, qu'on peut dire qu'on est dans une famille. Et donc, on se doit de prendre soin des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on grandira ensemble et qu'on manifestera ensemble sa gloire, sa splendeur, sa magnificence et son amour. Avec moi. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu nous donnes, Seigneur, ce que tu nous permets de faire, de nous réunir ici. Merci pour chacun d'entre nous, pour chaque personne présente dans cette salle. Je te demande que tu puisses leur parler, que tu puisses les faire réfléchir. Qu'ils puissent saisir aussi certaines choses, qu'ils puissent aussi être encouragés, tu puisses les motiver par ton Saint-Esprit, afin que ils puissent comprendre le sens, la signification de ce que ça veut dire que d'être ton enfant, d'être ton fils ou ta fille, et les responsabilités qui nous incombent. C'est pas facile tous les jours, mais que tu puisses nous aider à nous souvenir d'où on vient, pardon, et comment on peut s'encourager mutuellement, comment on peut être une source d'édification. Je suis certain que chacun a quelque chose à faire, à apporter à l'église locale et l'église avec un grand E, et que tu puisses nous aider à le faire ensemble, d'un seul corps. Pour que ta gloire rayonne pour que ton royaume s'agrandisse jour en jour. Et je te demande toutes ces choses au nom de Christ. Amen.